Il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible qui aimerait bien suivre. La puissance, c'est quelque chose d'extrêmement. Attirant, elle fascine, elle nous réveille, elle nous fait bondir parfois, et elle fait peur aussi. Donc un volcan qui explose comme ça fait fuir les populations locales. La mer déchaînée, en fait, elle nous laisse sans défense. Alors, Michael nous a parlé la semaine dernière, donc on continue notre série dans le livre des Actes des Apôtres, et Michael nous a parlé de la puissance de la parole. Cette parole qui transforme des gens qui étaient pourtant hostiles à Dieu en des adorateurs de Dieu. Et en fait, cette parole transforme des gens en des adorateurs qui s'aiment, qui se servent en partageant de manière désintéressée même leur bien. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et dans cette section suivante, notre passage de ce matin rapporte un autre événement qui est également suivi d'une prédication. Donc, il y a quelques semaines, on a étudié l'arrivée de l'Esprit, la Pentecôte, et puis ensuite la prédication de Pierre après. Voilà, et ce matin, nous avons un autre événement, donc un signe tout à fait étonnant. Et ceci est un suivi d'une prédication de Pierre. Donc Pierre, comme d'habitude, ne peut pas s'empêcher. Dès qu'il y a une occasion de prêcher, il se lance. Et on a vu il y a quelques semaines qu'il a quand même un mandat du Christ ressuscité, donc il est motivé, donc il se lance. Ça veut dire que ce matin, comme la semaine dernière, nous avons une prédication sur une prédication. C'est un peu bizarre en fait de penser, mais je vais reprendre la prédication de Pierre. Et puis, on va voir ce qu'il a dit. En fait, Michael m'a dit la semaine dernière, après avoir prêché sur une prédication, il avait demandé aux gens qu'il avait invités chez lui à manger. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être restituer l'essentiel de ce que j'ai dit ce matin? Donc, c'est un peu osé. Courageux, en fait, de sa part de faire ça. Parce que parfois, ce n'est pas évident de vraiment saisir vraiment l'essentiel de ce qu'un prédicateur va dire. Donc, ça dépend du prédicateur, bien sûr. Ça dépend de notre écoute. Voilà, et ce matin, en fait, cette semaine, moi, j'ai dû me pencher aussi sur cette question. Qu'est-ce que Pierre voulait dire au juste? Quelle était vraiment sa grande idée? Quelle était l'application de son message? Et aussi, un peu, peut-être, après, qu'est-ce que Luc veut me dire, donc l'auteur de ce livre? Pourquoi est-ce qu'il a inclus cette prédication? Voilà, moi, je pense, et donc ça, c'est à vous aussi de voir en lisant le texte et en suivant ce matin. Moi, je me demande si, en fait, l'idée que Pierre et que Luc veulent nous dire, c'est que il veut qu'on saisisse la puissance étonnante, mais aussi bienveillante de Dieu à l'égard des gens qui sont pourtant hostiles à Dieu. Alors, dans un premier temps, on va voir, on va nous trancher sur ce texte de puissance étonnante. Et dans un deuxième temps, nous allons nous mettre à l'écoute de la prédication de Pierre et voir ce qu'il dit. Et lui parle d'une puissance étonnamment bienveillante. Alors, au début de notre passage de ce matin, on voit quelque chose de vraiment remarquable. Pierre et Jean sont là en train de se rendre au temple. C'est la 9e heure, donc c'est-à-dire c'est à peu près 14h ou 15h de l'après-midi. Et là, ils sont sollicités par un infirme. Il veut de l'argent. C'est vrai que si vous faites la manche, il faut vous positionner dans un endroit stratégique. Là où les gens vont vous voir d'abord. Là aussi, à un moment dans la journée où ils sont peut-être plus susceptibles de vous donner de l'argent. Et donc, à la sortie d'un temple, à la sortie d'une église, instrument religieux, c'est quand même assez stratégique. Parce que peut-être les gens vont se culpabiliser, vont se dire, bah tiens, je vais peut-être quand même, je devrais donner de l'argent. Oui, ils vont se dire, bah, je veux peut-être me faire bien voir, peut-être par mes voisins, mais peut-être aussi dans une démarche envers Dieu. Donc l'infirme fait appel au sentiment religieux de Pierre et de Jean. Dans un sens, il est mal tombé parce que ces hommes n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas un sou. Mais dans un autre sens, en fait, ils tombent très bien. Parce que ce qu'il va recevoir va dépasser toutes ses attentes. Dans verset 6, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et juste avant, ce texte a précisé que cet homme n'a jamais marché. Donc il était un infirme de naissance. Ça veut dire que ses jambes auraient été totalement défigurées, sans muscles, sans force. Et là, à l'instant même que Pierre annonce le mot, ses jambes sont transformées. Il y a des muscles qui se forment, il y a des ligaments qui se fortifient. Donc cet homme est devenu littéralement une nouvelle création. En fait, c'est quelque chose qui a dépassé la médecine du premier siècle, et c'est quelque chose qui dépasse aussi notre médecine. Je sais que les facs de médecine de Paris, à Bobigny, à rue des Saints-Pères, ces facs auraient bien du mal à expliquer ce qui s'était passé. Verset 8. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et verset 9. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Donc, cet homme est transformé. Et Luc le dit plusieurs fois, quatre fois, il marche. Et cette transformation le transforme lui aussi en un adorateur de Dieu. Il lui rend gloire. Sans surprise, la foule, elle est stupéfaite. Tout le monde étonné accourut vers eux, au portique de Salomon. Ah, la foule fixe son regard sur Pierre. Mais qui est cet homme? Et comment ça se fait qu'un homme peut faire quelque chose comme ça? Et Pierre saisit l'occasion de prononcer la parole. Pour Pierre, le signe conduit directement à la parole. Je fais un petit aparté. C'est vrai que dans certains milieux évangéliques, on entend beaucoup parler de guérison, d'évangélistes qui viennent avec des grandes conférences et qui font des miracles. On peut se poser la question... est-ce qu'ils ont un peu un mandat de Pierre? Est-ce qu'ils suivent simplement le modèle d'évangélisation de Pierre avec des merveilles, des signes pour attirer la foule et ensuite pour prêcher la parole? Alors que dit ce texte? Ben, juste avant, au verset 43, on l'a vu la semaine dernière, Luc nous dit que les apôtres faisaient ce genre de signes, beaucoup de signes parmi le peuple. C'est si les apôtres. Donc ce qu'on voit ce matin, c'est un exemple d'un de ces signes. Donc ailleurs, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, Paul explique un peu en défendant son ministère. Il dit que, voilà, moi-même, j'ai fait ce genre de signes, et ça c'est distinctif d'un apôtre. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dit donc, je cite, « Le salut annoncé d'abord par le Seigneur, donc Jésus, au ministère terrestre, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, selon sa volonté. » C'est d'abord quelque chose qui atteste les apôtres. Ils attestent leur ministère, ce qu'ils vont dire. Et ça, on le voit aussi ailleurs dans la Bible. L'Ancien Testament, au grand moment de l'histoire du peuple, il y a toujours eu des miracles, des signes. On peut penser à Moïse, l'Exode, on peut penser aussi au prophète Élisée. Donc à ce moment-là, il y avait beaucoup de signes. Et c'est quelque chose, Dieu dit à ce moment-là, voilà, moi je suis à l'œuvre. Ce sont mes œuvres et ce sont mes hommes. Donc écoutez-les. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait jamais de miracles aujourd'hui. Il peut en faire. Ne change pas, sa puissance n'est en rien diminue. Et Je pensais au livre à l'épître de Jacques où on est appelé à, on nous dit voilà, c'est bien de prier pour les malades. Mais ce miracle, ce signe, n'est pas vraiment donné en exemple, ce n'est pas quelque chose à suivre, ce n'est pas un enseignement de comment faire de l'évangélisation. C'est un signe pour nous aussi qui lisons ce texte. C'est un signe qui dit écoutez ces hommes. Ces hommes ont quelque chose de particulier à nous dire. Ces hommes sont attestés de Dieu. Dieu est à l'œuvre à ce moment. Sur notre deuxième section. Alors, cette prédication de Pierre, qu'est-ce qu'il dit exactement? Il saisit l'occasion que le miracle lui offre pour adresser la foule. On ne lui a pas demandé de parler, mais ça ne gêne pas Pierre. Donc il pense, il y a peut-être une implication là, on dirait. Et donc, il donne un message d'évangélisation. Et donc, c'est un très bon message d'évangélisation. Et ce message nous montre à quel point l'évangile a changé Pierre. Donc Pierre, on a vu l'année dernière dans les études sur l'évangile de Marc, un homme qui avait du mal à tout saisir et puis qui avait du mal à comprendre le ministère de Jésus. Mais là, il devient un théologien accompli. Et la théologie de Pierre est centrée sur Jésus. C'est Jésus qui l'annonce. C'est vraiment Jésus qui est au centre de son message. Et Pierre leur dit que le miracle qui vient de se passer, bah c'est Jésus qui l'a fait. Donc verset 16. C'est par la foi en son nom, donc le nom de Jésus, que son nom, donc Jésus, a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus, en lui, qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Et Pierre l'a fait au nom de Jésus. C'est vrai que si on pense au ministère de Jésus, Jésus, quand il a fait des miracles, il n'a pas fait ces miracles au nom de quelqu'un d'autre. Il n'a pas fait appel à un nom supérieur au sien. Il a simplement prononcé le mot et la chose s'est accomplie. Par sa parole puissante, voilà, le vent se calme, la mer se calme aussi. Jésus guérit les malades, il ressuscite les morts. Mais il le fait, il ne fait pas appel à une puissance supérieure à lui-même. Et Pierre leur dit, en fait, c'est Jésus qui est en train d'œuvrer parmi vous. C'est Jésus de Nazareth, donc il spécifie vraiment de Nazareth, c'est cet homme que vous connaissez, celui qui a grandi pas loin de chez vous, qui vient de cette bourgade de Nazareth. C'est lui qui est à l'œuvre. Cet homme qui, à peine, ça fait peut-être 2-3 mois que ces hommes ont vu Jésus crucifié. Pierre leur dit, voilà, c'est lui, cet homme qui a été crucifié, qui a été maudit en quelque sorte, c'est lui qui est à l'œuvre parmi vous. Dieu a agi de manière décisive. Donc, verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos ancêtres a glorifié Jésus. Par vraiment un auditoire juif, donc il fait appel à la connaissance de l'Ancien Testament. C'est le Dieu de l'Exode, ce Dieu qui les a fait, qui a fait sortir le peuple d'Égypte. C'est lui qui a agi de manière décisive. Cet homme, Jésus, n'est plus mort. Dieu l'a glorifié. Ça veut dire que Dieu a rendu un verdict tout autre. Les hommes l'ont mis à mort. Mais Dieu l'a rendu à la vie, avec des honneurs. Le condamné à mort, le maudit, est maintenant le héros fêté, est à la droite du Père. Alors Pierre ne se retient pas, il n'a peur de rien. Et Pierre, en fait, il a tendance à appeler les choses par leur nom, à vraiment appeler un chat un chat. Donc il dit, mes amis, vous avez fait une erreur catastrophique. Vous avez tué l'auteur de la vie. Vous avez tué le saint, le juste, le serviteur. Il fait appel à toute la connaissance de l'Ancien Testament. Il leur dit, voilà, c'est bien lui, le Messie. Le roi juste, bon et puissant, celui que Dieu allait envoyer pour aider le peuple, pour régner sur le peuple, pour faire du bien au peuple, pour instaurer la justice. Ce serviteur dont Esaïe a parlé. Parce que c'est Jésus. Et Pierre l'a dit, vous avez échangé le Messie contre Barabbas, un meurtrier. Barabbas, c'est plus important que Jésus. Vous pouvez peut-être imaginer leur choc, l'horreur. Qu'est-ce qu'on a fait? Il se trouve dans le pétrin. Comment aurait-il pu faire une chose pareille? Verset 17. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Donc l'ignorance de ces hommes l'a conduit, les a conduits à commettre un crime qui dépasse notre entendement. Mais Dieu n'est pas pris au dépourvu par ce qui s'est passé. Dieu est souverain. Son Christ, son roi, en fait, il devait souffrir. Et ça, on le sait des paroles de Jésus. Jésus a dit à de multiples reprises, le Fils de l'homme doit souffrir. Il faut qu'il soit livré entre les mains des hommes. Jésus le savait, Dieu le savait. Et Dieu l'a annoncé bien à l'avance par la bouche de ses prophètes. Parfois, de manière très claire, on peut penser au texte d'Ésaïe 53, un serviteur juste qui souffre de manière injuste. Mais parfois Dieu l'a dit de manière plus subtile. Il y a une sorte de modèle qui se répète dans tous ces prophètes. Israël va passer par la souffrance avant que la gloire n'arrive. C'est un passage obligé. Et Jésus, Nouveau Testament nous le dit, c'est un peu comme il est Israël. Il incarne Israël en quelque sorte. C'est le vrai Israël. Et Jésus doit y passer aussi. Doit passer par cette souffrance qui sera suivie de la gloire. Non pas parce que il aurait désobéi à Dieu, mais de manière obéissante. Il se donne pour porter les fautes de son peuple. Alors, que fait alors? Pierre passe à l'application. À toute bonne prédication doit avoir de l'application. Verset 19. Repentez-vous et conversez. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alors Pierre les met devant un choix. C'est soit la repentance, soit il faut qu'ils assument ce qu'ils ont fait de manière volontaire, de manière lucide, le fait qu'ils ont livré le Messie entre les mains de Pilate. La repentance, la conversion, c'est le fait, c'est un peu qu'on peut le dire ainsi, c'est le fait de cesser la guerre, cesser les hostilités contre Jésus. C'est comme une déclaration de défaite devant lui, de faillite morale. Et c'est un serment d'allégeance au roi. C'est le choix de vivre pour lui de manière, dans une obéissance joyeuse. Plutôt que de sombrer dans une autonomie qui fait fi à Jésus, qui nous entraîne dans une hostilité à son égard. Une hostilité qui nous fait préférer de manière absurde Barabbas à l'auteur de la vie. Et Dieu demande que tout cela cesse. Parce que Dieu veut pardonner ceux qui ont tué son fils. Je vais revenir sur un autre signe, hein. Donc, assez récent. C'est un signe qui a choqué le monde en 2001. Les attentats du 11 septembre. Alors, c'est un signe, mais ce n'est pas un miracle. C'est un acte délibéré. C'est un acte meurtrier. C'est ça que nous étions époustouflés par le choc puissant de ces avions qui percutaient ces immeubles géants. C'est un signe fort de la part de certains terroristes. C'est un signe de malveillance, de haine, qui proclamait haut et fort la volonté de faire du mal, de tuer, de détruire l'Occident, en quelque sorte. Et notre signe de ce matin, nous avons cette infirme qui est guérie, proclame justement le contraire. C'est un signe qui déclare au monde, je veux vous faire du bien, je veux être bienveillant, je veux guérir, je veux restaurer, je veux pardonner. Et de par le marché, c'est ça ce qui est un peu quasiment incroyable, c'est qu'il donne ce signe à ceux qui ont tué son fils, qui ont livré son fils entre les mains de Pilate. Donc il y a le 11 septembre qui nous a choqués, c'est un événement fou. Mais ce signe au portique de Salomon est également, c'est pas un signe fou, mais c'est un signe incroyable, d'une puissance incroyable, mais d'une puissance qui montre la bienveillance de Dieu à notre égard. Et c'est ça l'évangile. C'est l'évangile de Dieu, c'est son évangile, son initiative, l'initiative de Dieu qui va à la rencontre des hommes, à la rencontre des hommes qui lui ont fait du mal. Mais il va à leur rencontre pour leur faire du bien. Qu'est-ce qui est offert? Ben, le texte nous dit que c'est le pardon qui est offert, un nouveau départ, une nouvelle relation avec Dieu. Dieu venu blanchir, il veut apaiser nos craintes, nos peurs. Si on devait faire une étude peut-être un peu comparative des religions du monde, on constaterait que dans la plupart des religions du monde, il y a une démarche envers Dieu. Elles disent ce qu'il faut faire pour suivre les consignes de Dieu, pour lui plaire, pour être à la hauteur de Dieu. Par exemple, il y a les cinq piliers d'islam, il faut faire ceci et cela pour plaire à Dieu. Il y a toutes les pratiques méditatives du bouddhisme pour parvenir à l'éveil spirituel. L'hindouisme, ce qu'il ne faut pas faire pour éviter, ce qu'il faut faire pour éviter le karma négatif. Et c'est vrai qu'il y a quand même des choses à faire dans le christianisme. Il y a une mise en pratique de la foi. Mais ce qui est étonnant et ce qui est différent, c'est vraiment le fait que le vrai Dieu a une approche tout autre. C'est lui qui vient faire les hommes. C'est lui qui prend l'initiative. Il vient nous chercher. Il vient chercher même ceux qui ont mis à mort son fils. Il veut les pardonner. Il veut les bénir. Il veut les restaurer. Dieu ne demande pas à ces hommes d'expier la faute qu'ils viennent de commettre. Et Dieu ne demande pas d'expier nos fautes non plus. Parce que si on pense comme cela, c'est en quelque sorte on n'a pas tout à fait compris. On n'a pas encore compris la gravité de ce qu'on a fait. Parce qu'on ne peut jamais faire assez. On ne peut jamais assez faire pour expier nos fautes. Mais c'est Dieu qui est venu, c'est lui qui a pris l'initiative, il a tout fait pour que nous puissions jouir de son pardon. Il lui promet des temps de rafraîchissement, dit le texte. Et c'est vrai que la vie chrétienne, même si elle n'est pas toujours facile, elle nous donne une relation avec notre Créateur, une relation avec Dieu qui nous fait du bien, la joie de le connaître. La joie de se savoir pardonné, aimé par Dieu. Il y a l'espérance de l'éternité qui naît dans nos cœurs. Nous avons cette paix qui dépasse tout entendement. Une paix qui nous aide à faire face, à rester calme face aux perturbations de la vie professionnelle, à la vie de famille, avec toutes les choses qui se passent. Et elle nous donne aussi des frères et sœurs. Ensuite, le texte dit que Jésus revient. Verset 21. Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Encore une fois, donc Pierre fait appel à la connaissance de l'Ancien Testament. Dieu avait promis qu'il allait résoudre le problème du mal. Toutes ces conséquences de ce qu'on appelle la chute, la rébellion de l'homme, Dieu a promis qu'il allait rétablir les choses, qu'il allait refaire sa création. Il a promis qu'un jour, la violence entre les hommes allait cesser. Il a promis que la haine sera un jour totalement vaincue, que les guerres seraient éradiquées, que l'injustice ne sera plus, que la création connaîtrait la paix, que la mort n'existerait plus. Peut-être que vous vous dites, c'est peut-être un vieux pieux, une sorte d'utopie irréaliste, une société parfaite et imaginaire, un peu comme les rêves de Karl Marx ou de Jean-Jacques Rousseau qui essayaient de voir une société parfaite à l'avenir. Et peut-être nous, à la fin du, au début du XXIe siècle, on se dit tout ça, ça n'existe pas, c'est pas la peine d'y penser. Et ce texte nous dit que lorsque Jésus revient, c'est à ce moment-là que Dieu va accomplir toutes ses promesses. Ça ne va pas passer, se réaliser avant. Mais quand il revient, tous les aveugles verront, tous les infirmes marcheront. Et tout comme les signes de Jésus dans le Nouveau Testament, ce signe que Pierre a fait dans la première partie du passage, ce signe qui est vraiment Jésus à l'œuvre, ce signe nous donne un avant-goût de ce que Jésus va faire quand il revient. Il veut, il peut restaurer, il peut recréer les jambes de cet homme. Il peut lui donner une nouvelle vie. On peut se poser la question, est-ce que ces utopies peuvent-elles exister? Et on sait que nous les hommes, on ne peut pas changer le monde. On peut peut-être faire quelques réparations de temps en temps. Mais on ne peut pas changer radicalement ce monde parce que on ne peut pas éradiquer le mal. On est trop amis avec le mal. On est impliqué dans le mal. Et on est esclave du mal. Mais s'il y avait un homme qui était à la fois Dieu, peut-être lui pourrait bien le faire. Peut-être Jésus peut le faire. Celui qui a déjà vaincu le mort. Donc on a vu ça il y a quelques semaines quand il est revenu de la mort, la résurrection. C'est un signe fort qui, s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est bien lui. Donc Pierre commence à rassembler un peu les pièces du puzzle de l'Ancien Testament à la fin de sa prédication. Il veut montrer à ce groupe de juifs rassemblés là que Jésus est bel et bien la pièce qui leur manque. Moïse, dans l'Ancien Testament, avait promis qu'il allait y avoir un autre prophète beaucoup plus grand que lui qui allait venir. Et que c'était important de l'écouter. Donc verset 22, « Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Ce sont des paroles graves. Votre réponse à ce nouveau Moïse détermine votre appartenance ou non au peuple de Dieu. Donc c'est important, c'est crucial d'écouter ces paroles. Et c'est une catastrophe si vous n'écoutez pas. Jésus n'est pas quelque chose, simplement un élément facultatif, un philosophe de plus. Donc Pierre supplie son auditoire, ce public juif, d'écouter les paroles de Jésus. C'est lui qui l'élément clé, la pièce qui manque et qui est maintenant révélée. Ensuite, il enchaîne en parlant des prophètes et de l'alliance. Donc il cite l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Donc Genèse chapitre 12, donc c'est au verset 25, et donc c'est un verset clé de l'Ancien Testament. C'est les promesses, donc après la première partie de la Genèse où on a vu que les choses se dégringolent, ensuite chapitre 12, Dieu annonce qu'il va remédier à tout ça. Donc verset 25, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Et Pierre dit, voilà, c'est Jésus qui est cette postérité, cette descendance. Le serviteur, la postérité, le prophète comme Moïse, donc tout ce qui se converge sur Jésus. Verset 26, on s'est terminé sa prédication. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Dieu veut bénir, il veut pardonner. Il veut nous faire détourner de notre désobéissance. Il veut nous donner une nouvelle relation de paix et d'amour avec lui. C'est comme ça qu'il veut nous bénir. Et Pierre nous dit que ça se passe en Jésus. C'est en Jésus que tout ça se trouve. Ça commence avec les Juifs, là, à Jérusalem, au portique de Salomon. Comme Jésus a dit, allez à Jérusalem, Judée, mais ça va continuer jusqu'aux extrémités de la terre. Concluons. Dieu veut nous bénir. Il ne nous demande pas d'expier notre propre faute. Notre faute est simplement trop grande. Il nous demande d'écouter les paroles de son serviteur Jésus, de cesser l'hostilité à son égard, cette hostilité qui l'écarte, qui l'ignore, qui le méprise. Il nous demande de mettre notre confiance en lui. Et par cette prédication, Pierre nous montre que l'initiative est celle de Dieu. C'est lui qui va à la rencontre des hommes, des humains. C'est lui qui l'a fait en Jésus. C'est une démonstration de sa puissance, de sa force. Mais cette force est bienveillante. C'est cette force qui nous sauve. Cette puissance, elle nous fait du bien. Donc Pierre veut que chacun de nous saisisse ce matin cette puissance. Cette puissance bienveillante de Dieu en Jésus-Christ. Parce que personne n'est trop mauvais pour lui. Personne n'est allé trop loin. Et là, dans ce passage, on voit les gens qui sont allés très très loin. Personne n'est allé trop loin. Tous peuvent venir à Jésus et être réconciliés avec lui. Et cette parole est pour tout le monde. Toutes les familles de la terre, tous les peuples de cette planète bleue. Et à la fin du passage, on va voir, et on va voir plus la semaine prochaine, que cette parole ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui rejettent cette parole, qui se privent de manière tragique de cette bénédiction, de ce pardon. Mais à la fin de ce passage, on voit encore une fois que la parole va de l'avant et qu'il y a beaucoup de gens qui l'acceptent. Prions. Pour ton évangile, cette initiative que tu as prise de venir vers nous lorsque nous étions loin de toi, hostile à ton égard, à ta parole. Merci de ne pas avoir attendu que nous nous tournions vers toi, mais merci d'avoir pris cette initiative. Et Seigneur, nous voulons te louer ce matin, te remercier pour l'immensité de ta bienveillance, cette puissance qui restaure, qui change ceux qui pourtant hostiles à toi. Et Seigneur, demande-nous de nous aider ce matin à dépendre de toi en toutes choses, à ne pas essayer d'expier nous-mêmes nos fautes, mais vraiment de faire confiance à Jésus seul. Au nom de Jésus. Amen.
Je vous propose de chanter, on va peut-être se lever pour ça, le chant auprès de Dieu. quelques annonces sur la vie de notre église. Encore une fois, donc bienvenue à chacun. Merci pour la présence de chacun, en particulier ceux qui nous visitent pour la première fois, et puis pour ceux qui viennent aussi habituellement, hein, tout le monde. Avec plaisir. Aujourd'hui, journée particulière, puisque nous allons manger ensemble, enfin, une journée un peu continue, nous détendre ensemble, apprendre à mieux nous connaître, discuter, etc. Donc, bien entendu, tous ceux qui veulent rester sont les bienvenus. Hein, si vous n'étiez pas au courant, si vous n'avez rien amené, il n'y a pas de souci. On partagera, je pense qu'il y a largement ce qu'il faut. Donc, voilà, on verra ça dans quelques instants. Mais il n'y a aucun souci, soyez les bienvenus et sentez-vous accueillis aussi pour ce moment-là. Rien de particulier n'est prévu hein, pour cet après-midi. Donc, on improvisera. Peut-être une idée, mais bon, on verra tout à l'heure. Hein. Si certains d'entre vous, librement, veulent approfondir leur connaissance de certains chants, que notamment la semaine dernière, vous avez eu quelques difficultés à chanter, peut-être que c'est une idée. On pourra, pas forcément tout le monde, hein, mais quelques-uns au moins, apprendre quelques chants, je ne sais pas. On verra ça tout à l'heure aussi. Dans 15 jours, nous aurons à nouveau un repas ensemble. Initialement, si vous vous souvenez, on avait prévu de faire ça un peu une fois par mois, et puis on s'est dit, tous ensemble, on s'est dit pourquoi pas tous les 15 jours. Donc on va essayer plutôt tous les 15 jours pour le moment. Donc le 19 octobre également, un repas ensemble, le dimanche. Voilà, je vous rappelle donc la réunion aussi de mercredi, 20h30. Ce sera un atelier biblique sur la deuxième moitié d'Éphésiens 1. Vous avez dû trouver sur vos chaises hein, le premier bulletin de l'église, de la Garenne, bulletin d'octobre. Oui. 20h, pardon, qu'est-ce que j'ai dit, 20h30, c'est ça ? Pardon, oui, 20h. Mercredi à 20h. Voilà, donc le bulletin, vous l'avez ici imprimé. Voilà, quelques nouvelles peut-être que vous ne saviez même pas hein, sur l'église. Vous voyez qu'il y a une vie ici dans ces locaux et un petit peu ailleurs aussi parfois. Un petit point aussi sur les travaux qui vont commencer donc très prochainement, notamment pour agrandir cette salle en faisant sauter, donc très très prochainement, hein, dans les jours qui viennent, on va faire sauter la cloison qui est derrière David, enfin la dernière rangée là. Voilà, donc il donnera un peu plus d'espace aussi et d'autres aménagements avant d'entamer donc les travaux dans le reste des locaux pendant l'instant de l'année. Pour ceux qui souhaitent le recevoir plutôt par mail, c'est Trevor qui va centraliser les demandes. N'est-ce pas ? Ouais, ok. Donc voilà, il fera une liste avec vos emails et puis donc on fera une liste qui partira tous les mois comme ça. Voilà. Si vous voulez d'ailleurs aussi des bulletins à donner autour de vous, à des personnes en particulier que l'église peut intéresser, donc pareil, voyez avec Trevor et puis on pourra vous fournir quelques-uns en plus. Voilà, plusieurs ont demandé ce qui est un annuaire de l'église. Donc c'est une très très bonne idée. Simplement, on ne veut évidemment forcer personne à figurer dans l'annuaire, hein. Donc chacun doit être libre d'y figurer ou pas. Et donc, alors je n'en ai pas parlé. Une surprise, Mickaël. Est-ce que tu veux bien te charger de centraliser ? Donc voilà, Mickaël en fait va venir parmi vous, va vous appeler et appellera aussi ceux qui viennent habituellement et qui ne sont pas là. Hein. Et donc, pour vous demander déjà si vous souhaitez ou pas être dans l'annuaire, donc sentez-vous vraiment libre. Hein. C'est un annuaire dont l'objet évidemment c'est les gens de l'église. Hein, voilà. Il ne sera pas diffusé ailleurs de toute façon. Et aussi, quelles informations vous voulez y trouver ? Est-ce qu'on peut y mettre votre adresse ou juste, par exemple, votre numéro de téléphone ou juste votre email, je ne sais pas, comme vous voulez. Sentez-vous vraiment libre aussi à ce niveau-là. Et donc, Mickaël va, pendant les prochaines semaines, établir cette liste. Donc, au plus vite, on établira cet annuaire-là.
Ce n'est pas les fichiers Edwige.
Non, rien à voir avec Edwige. Nous n'avons aucune consigne gouvernementale à ce niveau-là. Non, c'est vraiment faux. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres annonces. Ok. Nous allons terminer avec la lecture de deux versets dans Jude. peut se lever pour écouter la parole de Dieu, pour terminer ce culte. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen.
Amen.
Voilà, bonne journée à chacun.
Merci.